Bonsoir.
Bonsoir.
Pierre-Marie et Karine et Romain pour cette nouvelle émission d'Imaginaire. Émission un petit peu spéciale aujourd'hui, on va s'écouter une longue interview. C'était pas vraiment une interview, c'était une psychique que tu avais fait quand même. On peut appeler ça. Il y a quelques questions du public à la fin aussi. Interview d'Aurélie Wallenstein qu'on avait reçue à notre salon. C'était
le vendredi.
Fin mai. Donc il y a 4 mois. Ça reste encore d'actu. J'ai vu que son nouveau bouquin sortait dans 9 jours, je crois. Ouais. Toujours chez Scrinéo.
Oui. L'épée, la famine et la peste.
Ok, tout un programme. Et puis, Karine, tu vas nous parler. Tu vas rigoler, mais de quoi tu vas nous parler?
C'est le seul moment où on va attendre.
Pierre-Marie, toujours. Hein.
C'est le seul moment où on va l'entendre rire de toute l'émission, alors profitons-en.
Oh, ça y est, il m'emmerde déjà.
Prends ta respiration.
On t'entend, hein. Tout le monde t'entend.
Mais non, je chuchote. On m'entend pas. Donc je vais vous parler d'Un pays de fantômes de Margaret Kiljoy aux éditions Argile.
Ok.
Les copains rennais.
Qu'on avait déjà présenté, Jean-Yves nous les avait présentés dans une émission il y a
Argile, pas
quelques
le bouquin.
Mois. Quoi. Et ben c'est parti. Moi je voulais vous parler d'un truc. Est-ce que vous avez entendu parler de les 50 livres préférés des Français d'après France Télévisions?
Ah oui.
Oui.
Bah, toi, tu travailles dans une librairie, donc peut-être que t'en as entendu parler.
Moi, rapidement, mais.
Donc.
Des choses intéressantes à nous en dire?
Bah, il y a du genre dedans, en fait. Donc.
Tu veux dire du genre hors manga?
C'est vrai qu'il doit y avoir à peu près 5 mangas. Et puis, c'est vraiment le nom. Par exemple, ils ont mis Dragon Ball. C'est pas. C'est, bon, ça pouvait peut-être pas être un tome précis. Donc, il y a des longues séries. En fait, voilà, bon, l'initiative vient de France Télévisions et puis de la BBC, et c'était complètement libre en fait hein, de remplir. Enfin, fallait peut-être en choisir 3, je crois. Genre, c'est 3 livres favoris.
Non, il fallait en choisir un si ma mémoire est bonne, justement. Ouais.
Et là, donc, il y a quelques semaines, ils ont publié le top 50 en fait. Hein. Et alors, moi j'étais un petit peu surpris. Alors il y a des trucs très anciens, mais il y a des trucs assez récents aussi. Et puis, alors d'après vous, alors quels sont les livres de SFFF qui sont arrivés dans cette liste quand même?
Alors, Game of Thrones, le Trône de Fer.
Non,
même pas.
Non.
Oh. Je sais pas, j'ai pas forcément.
Allez, il y a quand même des grands classiques quoi.
Bah, les fondations.
George Orwell.
Les fondations d'Asimov, 1984.
Ouais, 1984, exactement. Ouais. Il y a l'Assassin Royal de Robin Hobb.
Donc, c'est un petit peu surpris. Et Harry Potter, dans ce cas. Si, il y a l'Assassin Royal.
Oui, il y a Harry Potter. Il y a aussi le grand classique de la SF. Hein. Ce qu'on nous dit tout le temps.
Dune.
Oui.
Bah oui, non, mais ça, c'est parce qu'il y a l'actualité.
Ouais, je sais pas. Il y a Hunger Games aussi.
Ouais.
Et puis,
en gros, il n'y a rien de récent, c'est ça qui
est. Alors, il y a aussi un livre de science-fiction française.
Bah, La Disparition.
Non, relativement récent.
Tintin.
La Horde du Contrevent d'Alain Damasio.
Ah oui, Damasio.
Et puis, aussi une surprise, un bouquin, c'était une trilogie, écrit par quelqu'un qui habite tout près d'ici.
Bah.
Ok.
Au départ, une trilogie, Le Seigneur des Anneaux.
Quelqu'un qui a même publié dans des anthologies imaginaires.
Bah, Roxane Dambre.
Exactement.
Ah oui.
Scorpie de Roxane Dambre. Oui. Bah,
c'est une trilogie, non, c'est une quinquagologie.
Ah bon?
Il n'y a pas 5 tomes.
Elle est
Je
dans
crois
le top 50,
qu'en plus,
super,
la
ça.
Suite, enfin, il y a un spin-off, il me semble, qui sort bientôt. Si je raconte des conneries, je vais me faire taper dessus, moi. Bon, donc félicitations Roxane, quand même, elle a été assez surprise quand même.
Ouais.
Bon, allez, Karine, et donc il y aura une soirée à la télé hein, sur France 2, je crois, assez bientôt, où on désignera un seul ouvrage, voilà, parmi tout cela. Allez, c'est l'heure de la chronique de Karine.
Mais tu crois que ça m'aide déjà que je passe à la radio? Bref, Un pays de fantômes, c'est un roman de fantasy anarchiste qui met en scène un personnage principal nommé Dimos, qui est également le narrateur du récit. C'est un journaliste pour la Gazette du Borol. Au cours de sa mission, pour promouvoir l'empire borolien. Qu'est-ce qu'il y a?
Tiens, Marie, pique-lui le livre. Ah, je le voulais pour moi.
Non, moi, je veux juste voir la clé.
Bref. Donc, il sera embarqué par des brigands, ce qui le mènera à découvrir un peuple très indépendant, la compagnie libre de l'Andromède bleu. Les individus qui le composent, dont Soros et Nola. Deimos se confronte donc à la réalité du peuple opposé à l'Empire et va rapidement voir que ce dernier n'est pas si glorieux. En effet, elle torture les opposants à son pouvoir, tandis que la compagnie libre discute et écoute les avis divergents. Ainsi, Deimos commence à s'interroger sur son propre clan. Le lecteur le voit évoluer vers un groupe plus bienveillant, collectif, et où le partage et le respect de l'environnement est primordial. L'autrice nous entraîne au cœur d'un récit d'utopie, de résistance et d'aventure. Elle a su rendre ses personnages touchants, dont on se prend à espérer avec eux de la bonne fin de l'histoire. Margaret Killjoy parvient à créer un roman qui explore l'utopie, non pas à travers de la magie, d'événements ou de créatures fantastiques, mais en valorisant l'humain. La notion de camaraderie et l'anarchie sont mises en avant pour faire réfléchir le lecteur, expliquer les avantages et les inconvénients, et expliquer sans imposer. Tout cela en mettant de réels enjeux à l'histoire, notamment par le biais de la liberté du peuple rond et son combat pour sa survie. L'autrice nous fait nous interroger sur nos propres valeurs, nos responsabilités, notre indépendance. Un roman certes politique, mais également profondément humain, où l'on remet en perspective les limites de notre société. Une porte ouverte pour un monde meilleur, peut-être ou peut-être pas. La question, elle mérite d'être explorée grâce à un pays de fantômes. Margaret Killjoy est une autrice américaine qui s'illustre dans l'imaginaire, mais aussi une musicienne à l'origine du groupe féministe Femina's Ghoul depuis 2018.
Femina's Ghoul, c'est joli comme jeu de mots, ça.
Oui. Elle tient également un podcast anarchiste et survivaliste et a lancé un autre podcast en 2022. Un pays de fantômes est son troisième roman, sorti en 2014 en Amérique du Nord, et est le premier roman que nous découvrons de l'autrice en France. Et pour suivre, je vous propose l'écoute.
Mais attends, alors moi je voulais dire que alors c'est un roman qui datait de 2014, hein, qui a été traduit par Mathieu Priou, et il y a une jolie couverture de Xavier Collette.
Oui,
et il travaillait déjà pour les éditions critiques, lui, il me semble, Xavier Collette.
Critique, ouais. Et puis c'est lui qui fait toutes les couvertures pour Argile, et surtout il y a une préface de Patrick Cadoudenay.
Ah.
Oui. Qui explique un petit peu ce roman.
Et à propos de la couve aussi, je vois que c'est un petit peu en relief là. C'est marrant, je vois, ça fait un petit peu braille.
Pressé.
Ils font toujours ça. Ah oui, d'accord.
Alors moi, j'aimerais juste revenir sur un truc dans la chronique. C'est ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu parler des Posca. C'est trop bien. Tu te souviens, c'était les feutres où tu soufflais et ça faisait de la couve.
Hey, le livre, tu vas le prendre sur la tête, mais il est pas bon. C'est pas non.
Non,
plus,
je voudrais pas l'abîmer parce qu'en vrai, j'aime beaucoup.
Les couvertures que font les éditions critiques, qui sont souvent en relief avec des mises en 3D. Je pense notamment à l'Eurotopia. Utopia de Camilo Boulanger, la dernière nouveauté avec une couverture violette. C'est le même effet où il y a une impression de profondeur, alors que c'est vraiment des aplats extrêmement simples que fait Xavier Collette. Je suis assez fan de leur couverture.
Ok. Bon, tu voulais nous faire écouter du Femina's Ghoul ?
Non, pas du tout.
Loupé.
C'est le groupe Mirkour avec la chanson One Born.
Un très bon choix aussi. retour donc dans Imaginaire sur le 100.5, Onde de Borne, je crois. Enfin, je le dis peut-être pas très bien, parce que c'est une chanteuse danoise. Et j'aimais bien cette période où il y avait encore du métal dans sa musique. C'est pas le cas du dernier. Ça ressemble un petit peu à du Enya maintenant. J'aime bien Enya, mais là, en venant de Mirecourt, c'est vraiment devenu trop propre, trop lisse, cette musique. On va passer à l'interview d'Aurélie Wellenstein. On va pas la représenter tout de suite, parce que Pierre-Marie, tu commençais ton interview par la présenter. C'était très bien. Donc voilà, c'est parti sur le 100.5 pour l'interview d'Aurélie Wellenstein qu'on avait enregistrée à la médiathèque Toussaint en mai dernier.
L'association a le plaisir de recevoir cette année Aurélie Wellenstein. Ça faisait 5 ans, puisque en 2017, tu avais déjà été parmi nous. Et il s'en est passé des choses depuis 2017. Même si tu écris depuis beaucoup plus longtemps que ça. Première écriture publiée en 2007, c'était une nouvelle. Premier roman publié en 2013, Le Cheval et l'Ombre, aux éditions Sortilège. Depuis, 5 romans jeunesse, dont le dernier en date, Le Désert des Couleurs, chez Scrineo en 2021. 6 romans adulte, adolescent, dont Yardam en 2020 et surtout Mère Morte en 2019, que vous avez ici, et la première nouvelle, je vous l'avais dit, en 2007, qui a été suivie par 25 autres nouvelles. Autant vous dire que vous êtes en présence d'une autrice prolifique. Je vous rassure, elle ne se souvient pas de tout. Elle me l'a dit tout à l'heure. La première question que je me pose, c'est comment en es-tu arrivée à l'écriture ?
Oula ! Déjà, merci à tous d'être là avec nous. Je suis arrivée à l'écriture, en fait, quand j'étais gamine. Hein, j'ai commencé à écrire des fanfics de dessins animés. Donc, les dessins animés que je regardais à la télé, et de faire des fanfics de chiens, évidemment, et des fanfics de loups qui mangeaient les humains. Voilà, parce que c'était déjà un sujet qui m'intéressait. Et après, plus sérieusement, vraiment au collège, en fait, on commençait à écrire des nouvelles, et j'ai découvert Stephen King. Donc là, révélation, c'est une copine qui m'a offert Cimetière, en fait, quand j'avais 13 ans. Et ça a été un choc, en fait. Je me suis dit, non, mais c'est trop, c'est ça, en fait, que je veux faire. Et j'ai lu énormément Stephen King à l'adolescence, et je pense que ça m'a pas mal formée aussi au niveau de l'écriture, parce que je trouve qu'il a une écriture extrêmement cinématographique. Et du coup, il a des techniques qu'on peut apprendre, en fait, avec lui en le lisant. Notamment, vous savez, il fait vraiment des plans. Il y a des travelling, il décrit dans le mouvement. Donc ça, déjà, c'est très intéressant. Et surtout, ce que j'avais repéré chez lui, c'était que souvent, il décrivait les ombres et la lumière. Et paf, ça vous met du relief. Dès qu'il y a ces éléments de description-là, tout de suite, c'est plus visuel. Et j'ai lu par ailleurs, ça devait être dans l'écriture, je suppose, de King, qu'il explique que pour faire ces descriptions, il met tout ce qui lui passe par la tête, tout ce que ça lui évoque, en fait, par exemple une rue, et après il va élaguer pour ne garder que les images les plus parlantes, les plus visuelles. Et du coup je fais pareil avec ce que j'ai lu de cette technique là et je trouve que c'est vraiment ça fonctionne bien parce qu'après quand on lit, ben voilà, il y a des mots qui vont faire jaillir des images, et ça je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc j'ai beaucoup beaucoup appris de King. Donc ça c'était plutôt des nouvelles, après des romans un peu qu'on fait quand on est môme, c'est-à-dire des trilogies de 1 million de signes qu'on relit pas, et on se dit ouais c'est super, c'est des chefs-d'œuvre alors qu'en fait c'est trop nul et tout. Donc tout ça c'est passé dans les tiroirs, et finalement j'ai publié sur le tard, hein, parce que j'ai publié à 33 ans le premier roman, même si comme on en disait tout à l'heure, je publiais avec les camarades qui sont ici dans des fanzines, des nouvelles. Et ça, je trouve ça cool quand même, parce que vous savez comme moi, quoi, ça permet de faire des armes, de s'entraîner à écrire et de se confronter à des lecteurs. D'ailleurs, je crois que c'est aussi King, hein, qui conseille d'écrire des nouvelles. Et voilà, moi j'avais aussi démarré comme ça, et je conseille de faire des appels à texte, même s'il y en a un peu moins maintenant. Heureusement, il y a des gens qui résistent et qui proposent toujours aux jeunes de publier des nouvelles. On a connu une sorte d'âge d'or, en fait, où il y avait plein d'appels à texte. J'ai l'impression qu'il y en a moins aujourd'hui, mais voilà.
ça me permet d'enchaîner un petit peu. Si tu trouves qu'il y a moins d'appels à texte, notamment pour les nouvelles, est-ce que c'est pas notamment dû au fait que tu as quasiment arrêté les nouvelles depuis 2017?
Oui, je suis moins dedans, ça c'est sûr. Après, bah, c'est aussi mon copain qui m'a dit écoute, arrête. Parce que tu. Non, mais tu. Toi, t'es une romancière, et là, t'es en train de te perdre. T'es en train de te perdre, tu fais plus que ça. T'as perdu de vue ce qui était ton objectif, en fait. Du coup, ouais, j'ai dit, ouais, t'as raison, j'arrête de faire des nouvelles. Il y a aussi un côté un peu engrenage dans la nouvelle. Ça fonctionne, vous êtes publié, il y a un retour des lecteurs. Et donc après, vous rentrez vraiment dedans. Alors qu'à la base, si c'était de faire du roman, mais le roman, c'est tellement dur. C'est plus difficile. Que voilà, j'avais peut-être un peu perdu ça de vue. Et là, je me suis dit, bon, ok, j'y retourne, je me concentre là-dessus. Et je retourne au roman, quoi.
Et là tu as parlé des appels à texte, mais pour arriver à publier tes romans, puisque ton premier roman sort en 2013 chez une maison d'édition, alors j'ai peut-être mal fait mon boulot, mais il me semble qu'il n'existe plus,
ouais.
L'édition Sortilège.
Oui.
Comment es-tu arrivé à l'édition, justement? C'est un peu la croix et la bannière.
Ah, complètement. Alors là, je n'ai pas des discours très optimistes là-dessus. Il faut se battre, mais comme un lion, quoi. La première. J'ai eu des romans qui n'ont pas été publiés, évidemment. Et après, avec Le Chevalier, qui était un petit roman jeunesse très court, de 100 000 signes, pour ceux à qui ça parle, ou 150, j'ai écrit 7 versions. 7 versions, c'était un cauchemar. J'ai réécrit. J'avais eu une touche chez Flammarion grâce au speed dating des Imaginales. Et moi, je me suis un peu emballée, en fait, comme tous les jeunes auteurs. Je me suis dit, ouais, ça va marcher et tout ça. Et en fait, ça n'a pas marché chez Flammarion. Donc, j'étais hyper déçue. Ça m'a vraiment mis un coup derrière la nuque, quoi. Mmh. Et après, j'ai envoyé à des maisons qui étaient plus petites. Et Sortilège, donc, c'était de la micro-édition, hein. Qui faisait des chouettes petits bouquins, super bien maquettés, avec des très belles couvertures. C'était vraiment très très bien. C'était un éditeur breton, ils avaient fait deux anthologies sur des nouvelles sur la Bretagne, qui étaient très sympas. Et donc avec eux, ça a marché. Elle me prend le roman, mais on a eu une aventure qui était très courte parce qu'elle s'est rendue compte assez vite que ça n'allait pas marcher financièrement, quoi. Qu'elle était vraiment en train de perdre de l'argent. Et elle a décidé d'arrêter avant de partir en faillite, quoi. Et du coup, le roman a une existence de 2 mois, quoi. Oui, très, très court.
Et du coup, après ces romans-là, 6 ans plus tard, tu sors toujours en jeunesse Mère Morte, qui sort, comme beaucoup de tes dernières nouveautés, en pocket. Est-ce que ça permet à un roman de vraiment continuer sa vie, de sortir en pocket? Est-ce que tu touches un public différent?
Ouais. Non, alors ça c'est vraiment un truc génial qui m'est arrivé. Enfin, il m'est arrivé plein de trucs géniaux. J'ai de la chance, mais ça fait partie des gros coups de chance que j'ai eu, c'est d'être opéré par Stéphane Deza à l'époque chez Pocket, qui m'a pris les 2 bouquins en même temps, Le Roi des Fauves et Les Loups Chantants. Il a acheté les deux d'un coup pour les passer en poche, en fait. Le passage en poche, je pense que c'était lié aussi à l'époque. Le Roi des Fauves a été sélectionné à 7 prix, donc ça aidait. Et puis aussi, c'était le fait que lui, il a aimé, en fait. Les passages en poche, c'est pas que des ventes colossales, c'est aussi les éditeurs poche qui disent, bon, bah, moi, j'ai envie de défendre celui-là, de prendre celui-là, parce qu'il me plaît, quoi. Et Stéphane Deza, c'était, en fait, on était vachement sur la même longueur d'onde. C'était vraiment un mec qui fait les récits assez dark, assez punchy, donc ça a bien matché entre nous. Et pareil, il est parti, il a claqué la porte de Pocket assez vite. Et il y a eu un petit moment de flottement, et après la collection a été reprise par Charlotte Volper, qui est toujours en poste actuellement chez Pocket, et qui est une fille super, qui vient de chez Mnemos. Et qui se bat pour l'imaginaire de toutes ses forces. Et donc elle dirige la collection Pocket Imaginaire, et elle essaie de dynamiser le secteur en prenant aussi des femmes et en valorisant nos bouquins. Donc ils sont tous passés chez Pocket. Et donc pour répondre à ta question, ça donne une autre vie, c'est évident, aux bouquins. Je trouve ça très bien grâce au prix. C'est-à-dire que bon, bah, c'est pas toujours évident de pouvoir mettre 20 euros dans un livre. Moi, je suis tellement admirative des gens qui achètent des livres à 20 euros. Je trouve ça. Enfin, moi, quand j'étais ado, bah, j'achetais des poches à 10 francs. Donc, franchement, mettre 20 euros dans un livre, c'est beau. C'est bravo. Et donc, les poches, on est quand même sur du moitié prix. C'est un peu plus populaire, on va dire. Donc, c'est cool. Et chez Scrino, donc ils les mettent plutôt dans le rayon young adulte, sauf Yardam qui est passé directement en adulte mais qui a été tué par le Covid parce qu'il est sorti pendant le confinement. Vraiment pas de bol. Le confinement c'était le mardi et il sortait le jeudi. Donc librairie fermée, la catastrophe industrielle quoi. En plus c'est un roman qui parle d'une ville en confinement. Donc j'ai un peu coché toutes les cases pour que le roman se plante. Et oui, lui était en adulte parce qu'il y a des. Déjà il est beaucoup plus gros, il est un peu plus hard aussi à tous les niveaux. Ce que je voulais dire, c'est qu'en Pocket, il passe en adulte. Voilà. En Pocket, ils mettent au rayon adulte et Scrino met au rayon young adulte. C'est un peu des questions marketing aussi de la part de l'éditeur. Moi, j'ai pas vraiment mon mot à dire là-dedans. C'est l'éditeur qui décide.
Le duo Oiseau ou Le désert des couleurs, ce sont deux romans qui ont été mis plutôt en adolescent, jeunesse, de la part de l'éditeur, alors que fondamentalement, les scènes que tu décris ne sont pas très jeunesse, c'est pas du dessin animé qu'il y a dedans. Non. Est-ce que tu as quand même une différence d'écriture entre des romans qui vont être proposés à la jeunesse et des romans, et là je pense à Yardam ou à Mère Morte, qui vont être proposés à des adultes ou des jeunes adultes?
Oui, alors en fait, la jeunesse, j'ai fait des romans chez Magnard. Chevaux de foudre et la fille de Tchernobyl, et là je reprends la jeunesse, donc bon, j'espère que ça va marcher. C'est très compliqué avec l'éditeur, mais ça va aller. Et c'est extrêmement différent, surtout là je fais vraiment pour les petits, donc on n'est pas du tout sur le même délire. L'idée c'est que ce soit très dialogué, qui est assez peu d'implicite, que vous soyez assez explicite pour que le jeune lecteur arrive à vous suivre facilement. Je voulais faire un récit pour les tout petits, enfin les petits, pour les 8-12, qui soit féministe, antispéciste, anticapitaliste, un peu anarchiste et tout ça. Donc j'avais des scènes un peu hard. L'éditrice m'a dit non, mais sois plus subtile, s'il te plaît. Et en fait, elle avait pas tort, parce que j'avais une scène d'abattoir où on découpait une baleine. Et elle m'a dit non. Alors moi, j'ai fait non, mais c'est pas possible, mais vraiment, vous avez aucun courage. Un peu de courage et tout ça. Et en fait, elle avait raison, parce que je trouve que la façon dont je l'ai reprise de façon plus poétique, c'est-à-dire que la baleine se change en pierre, en fait. Elle se pétrifie, elle se statufie. Donc c'est la même chose, en vrai, c'est pour parler vraiment de la mort de l'animal à cause des baleiniers qui plantent le harpon dans la baleine. C'est une baleine de l'espace. Donc ils plantent. Voilà, c'est d'ailleurs ça, quoi. Quand les baleiniers plantent le harpon, la baleine se pétrifie, donc c'est pas gore, mais on fait passer le message de la même façon. Je pense que ça, c'est une image qui peut marquer et émouvoir sans être obligé de passer, comme je l'avais fait avant, par le sang qui tombe par terre, etc. Voilà. Voilà, c'est pour dire qu'en jeunesse, en adulte, on écrit pas pareil. Et moi, je suis jamais montée sur les freins hein, pour les sets chez Scrineo. En fait, non, j'ai jamais. Tu te dis pas, non, là, ça va trop loin, non, là, il faut être plus doux, pas du tout, quoi. En fait, tu écris comme tu le sens.
On y reviendra. Après, une de tes principales caractéristiques que tout le monde te reconnaît, c'est ton absence de pitié envers tous tes personnages.
Mmh. Ça, c'est important. Ça. With
so it begins.
Take It All Away, c'était Ruel, l'artiste. Ça te dit rien, Karine?
Non.
Un morceau qu'on entend apparemment à la fin de la 7e saison de Walking Dead, mais aussi dans la série The Leftovers. C'était le premier choix musical d'Aurélie Wallenstein dont nous écoutons l'interview en ce moment. Et on passe à la deuxième partie de cette interview que Pierre-Marie, tu avais orchestrée.
Je tiens à préciser quelque chose parce que.
Oui.
Parce que tout à l'heure, tu m'as un peu pris au dépourvu, mais sa prochaine nouveauté, sa prochaine sortie, L'épée, la famine et la peste, sortie chez Scrineo, comme tu l'as bien dit, ça sera le 29 septembre.
Ouais, ouais. Donc c'est vraiment très bien.
Tout le monde dans les starting blocks, tombez sur ce livre, avec une couverture toujours d'Aurélien Polis, puisque c'est Aurélien Polis qui fait toutes les couvertures d'Aurélien Einstein et aussi chez Scrineo, quasiment. Sauter sur le bouquin, c'est un ordre.
Allez, on s'écoute.
Ah bah, de toute façon, on saute dessus, littéralement. Enfin, c'est sûr.
On s'écoute la deuxième partie de l'interview qu'on avait enregistrée à la médiathèque Toussaint, tout de suite dans Imaginaire sur le 101.5.
La prochaine question, c'est par rapport au thème. Il y a beaucoup de choses que tu fais, on va parler notamment de Yartam, que tu as fait sur ton dernier bouquin. On va spoiler un petit peu, mais je vous conseille de le lire. C'est une ville qui est en confinement parce que la folie est une maladie sexuellement transmissible. Et donc, la ville dégénère petit à petit. Je ne dis pas grand-chose. Dedans, on y parle notamment d'acceptation de maladies sexuellement transmissibles qui ne sont pas possibles à soigner. Ce sont des thèmes qui sont assez forts et qui sont éminemment sociétales. Mais ce n'est pas le seul. Mère morte, tu vas nous parler d'écologie et d'antispécisme. Dans le désert de couleurs, pareil, tu vas nous parler beaucoup de la mémoire, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais surtout d'écologie. Est-ce que les romans que tu écris sont là pour raconter des histoires ou pour faire bouger les lignes?
À la base, j'avais aucun désir de faire passer des messages. Quand j'ai commencé, la première éditrice avec qui j'ai bossé, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu veux raconter? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et j'ai dit « Mais moi, je veux rien dire, en fait. Moi, je veux raconter des trucs. » Ça m'agaçait un peu le côté « Il faut faire passer un message. » Surtout en jeunesse, on vous demande de faire passer des messages. Et ça, moi, quand j'ai fait « Le roi des fauves », mais le roi des fauves, c'est un roman avec des gros monstres, en fait. C'est juste pour s'éclater, quoi. C'est trois jeunes qui sont condamnés à se transformer en berserk. Donc, Il y avait le côté page-turner, le côté fou, le côté sombre, et à aucun moment je me suis dit, ouais, je vais faire passer des messages avec Laura Dufauve. Je voulais juste que les gens s'éclatent, en fait. Et après, c'est drôle, parce que les gens, ils vous mettent des messages sur vos bouquins, quoi. Ils disent, oui, en fait, la transformation en berserk, vous comprenez, c'est l'adolescence, c'est le passage à l'âge adulte, c'est la métamorphose du corps et de la puberté. Et toi, t'es là, à côté. Mais bon, c'était pas du tout ça que tu voulais faire à la base, quoi. Toi, tu voulais juste des gros monstres. Donc, c'était pas la puberté de la, et à l'adolescence. Et en fait, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule avec ça. Mais je pense que c'est aussi parce que j'ai pu défouler ce côté cathartique, éclate, sur mes premiers romans. Et petit à petit, j'ai commencé à dire plus. Mais je pense qu'elle a pas tort, c'est Agnès, hein, l'éditrice en question, de qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que ça dit. Parce que c'est une bonne manière de construire, en fait, son récit. Et bon, bah, dans Mère Morte, il y a un sous-texte écologique qui est évident, qui se cache pas.
Et, tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, alors Mère Morte, en fait, c'est l'histoire d'un monde où on a tué l'océan, on a tué la mer, mais au sens propre. C'est-à-dire que la mer et les océans sont morts, et la mer et les océans reviennent sous forme fantôme hanter les hommes. Donc, comme la mer est fantôme, la mer peut déferler absolument partout. Elle peut venir recouvrir Angers, et dans la mer fantôme, on a des animaux spectraux qui viennent en fait porter la vengeance des animaux sur l'humanité et dévorer l'âme des humains.
Roman jeunesse.
Voilà. Donc en fait, ce qui est assez intéressant dans l'écriture de ce type de texte, c'est que vous allez parler d'écologie. Vous allez parler des animaux, vous allez parler de souffrance animale, tout en racontant quelque chose. Et en fait, cette intrication entre l'imaginaire, entre l'aventure et le côté message, peut fonctionner de façon très efficace. C'est-à-dire que si on prend les océans et la mer, pour parler de Mère Morte, si je vous dis qu'il y a 1000 milliards de poissons pêchés chaque année, en fait, c'est énorme, et en fait c'est un chiffre qu'on n'arrive pas à intégrer, parce que c'est sur une espèce de tout un peu flou, avec des contours flous. En plus, on dit les poissons, c'est voilà, c'est les poissons dans la mer, on sait pas trop à quoi ressemble tout ça. De toute façon, les poissons, on n'en parle jamais en individu, on dit ah bah il y a tant de tonnes de poissons qui a été pêché. C'est même plus des individus, c'est des tonnes. On a pêché des tonnes de poissons. On n'a pas pêché 25 poissons, on a pêché 1 kilo de poissons. De la même façon, au niveau de la mer, les poissons, on n'a pas vraiment pitié d'eux, parce que déjà c'est un monde assez étranger, assez lointain. Ils ne crient pas, ils sont muets. On a très peu de connaissances sur eux, finalement on n'a pas l'impression qu'ils souffrent, en fait, quand on les pêche et qu'on les laisse asphyxier à l'air libre. En fait, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe dans leur organisme. Donc voilà, il y a beaucoup de choses déjà qu'on ne sait pas. Et ce qu'on apprend par le documentaire, c'est hyper intéressant. On apprend plein de choses par les documentaires, par Seaspiracy par exemple, que sur Netflix, c'est passionnant, et on apprend plein de choses. Et ce que je vous disais tout à l'heure avec les chiffres c'est important, mais la fiction va apporter autre chose. Parce que dans la fiction, vous allez individualiser. Là, vous allez ramener à des individus, vous allez ramener à des personnages. Et c'est là où il va se produire quelque chose sur le lecteur qui est de l'ordre de l'émotion. Et là, vous allez percuter. Quand vous êtes sur un documentaire, vous pouvez être super touché, et même ça peut vous faire pleurer, tout ça, de voir un documentaire sur la souffrance animale et tout ça. Mais il y a quelque chose dans le roman qui va parler, qui va mettre de la sensorialité. C'est-à-dire que vous allez être immergé dans une histoire, vous allez sentir, vous allez vous identifier à un personnage, vous allez rentrer dans une histoire par le prisme d'un personnage, vous allez sentir ce qu'il ressent, le soleil, la chaleur. Dans Mère Morte, bah, la température est en train de monter de façon exponentielle. J'ai du mal à le dire, mais vous avez compris. Voilà, on ressent ces sensations. C'est vraiment très incarné, en fait, à travers la fiction.
Et c'est pas le seul livre que tu as écrit sur ce sujet-là. On parle aussi du désert de couleurs, mmh. où là, il s'agit de ben, il ne reste plus qu'un seul village humain. Et la question étant de retrouver pourquoi est-ce qu'il n'y a plus qu'une seule, puisque plus personne ne s'en souvient.
Et donc effectivement, vous avez un désert qui s'étend. On est sur une communauté. Peut-être qu'il en existe d'autres, en fait, on ne sait pas. Mais il y a une communauté de survivants qui sont dans un volcan, parce que le sable ne monte pas le long des parois. Donc eux, ils se sont installés vraiment dans le cratère. Ils ont fait toute une remontée de civilisation, une communauté qui fonctionne vachement bien. Mais le sable commence à monter. À l'assaut du cratère. Donc bientôt il va basculer dans le cratère et là c'est fini. Ah oui, pourquoi c'est fini ? Parce que en fait le désert, le sable, quand il vous touche, il aspire vos souvenirs. Et chaque grain de sable est le souvenir de quelqu'un en fait aussi dans ce désert. Et donc très régulièrement, ils envoient un explorateur ou une exploratrice avec une créature qui est une créature magique en fait, qui elle est capable d'ingérer les souvenirs. En fait, il les fume, les souvenirs au narguilé, et il revit le souvenir à la place de la personne comme s'il était elle. Et le lendemain, il lui raconte. Il lui dit, voilà, j'ai vécu ce souvenir, rappelle-toi, il t'est arrivé ceci, il t'est arrivé cela. Sauf que sur le papier, ça semble bien, mais de quelle façon il est en train de la reconstruire, en fait ? Parce qu'un souvenir, c'est subjectif. Donc, en fait, elle se déconstruit au fur et à mesure qu'elle explore le désert, et lui, il la reconstruit, mais de quelle façon est-il en train de la reconstruire ? Est-ce que c'est vraiment elle qu'il est en train de reconstruire ? Donc, ça parle de ça, ça parle d'identité, et... ce que je voulais aussi faire, c'était le désert des couleurs. Je l'ai écrit après le confinement. On ne pouvait plus voyager, on en avait marre. On voulait voyager dans les bouquins. Donc c'est un roman aussi d'exploration où il y a plein de paysages extraordinaires. C'est un roman qui est assez pictural avec des tableaux très graphiques, un peu à la Miyazaki en fait. J'avais cette envie là aussi de faire quelque chose d'assez sympa. Bon, après, je reste moi-même. Hein. Il se passe des trucs pas cool. Mais...
Voilà. Tu abordes le sujet. Dans Le désert des couleurs, ce personnage qui perd petit à petit ses pensées, donc lui-même, puisque à partir du moment où il perd un souvenir, en fait, il perd une partie de sa personnalité qui s'est construite suivant l'événement. Quand le personnage à côté lui rappelle son souvenir, il y a toujours cette possibilité de ne pas lui rappeler la totalité du souvenir suivant les événements qui se sont passés. Tu as à peu près la même chose dans Le dieu oiseau, où nous avons un personnage qui a été maltraité dans la vie et qui doit se reconstruire, qui va garder, lui, pour le coup, tous les souvenirs. Le dieu oiseau, c'est un personnage qui finit, gros spoil, qui finit fou, après avoir été un meurtrier, pour pouvoir se défendre. Dans Mermols, nous avons un personnage qui a abandonné les siens pour pouvoir survivre, pour pouvoir avancer un petit peu dans la situation, enfin dans le monde que tu as créé. Les personnages sont tous maltraités et bien peu finissent vivants. Pourquoi ?
Ben ça fait... En fait, dans un roman, il faut du conflit. Il faut du conflit, c'est le conflit qui fait tourner les pages. Qui donne envie de connaître la suite. Plus vous allez mettre le personnage en difficulté, et plus le moment va devenir haletant, en fait. Moi, j'aime bien le côté thriller et page-turner, donc plus je vais mettre le personnage la tête sous l'eau, mieux ce sera, en fait, plus on a envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Et l'objectif, alors je sais plus qui a dit ça, c'est peut-être encore une fois Stephen King, je sais pas, mais je suis pas sûre, que vraiment quand vous êtes romancier, faut mettre le personnage, donc la tête sous l'eau, et juste qu'il ait la possibilité de respirer, mais pas plus, quoi. Voilà, c'est Stephen King, c'est ça, voilà. Et j'aime bien cette image. Je la trouve assez parlante. Donc voilà, gardez vos personnages juste ce qu'il faut pour respirer, mais voilà, on n'est pas à la plage cool et tout. Hein.
Et est-ce que ça pose pas de problème sur l'identification des lecteurs vis-à-vis des personnages, puisque au fur et à mesure, comme tu le dis, tu tournes les pages et tu te rends compte que le personnage à qui tu t'es identifié, excuse-moi, bah, il va lui arriver des trucs pas cool, vraiment pas cool.
Non, je pense pas que ce soit un souci au niveau de l'identification. Ouais, non, mais c'est compliqué l'identification parce que je pense pas qu'on. En fait, je crois pas qu'on s'identifie au personnage. C'est toujours une question que je me suis posée parce qu'on parle tout le temps de ça. On dit oui, l'identification c'est important. J'ai même employé ce mot tout à l'heure. Mais en vrai, je pense qu'on a de l'empathie et que c'est plus important. Plutôt que de s'identifier à un perso, de dire ah oui, là je me reconnais en lui, c'est, le but c'est plus de dire je le comprends. Je suis susceptible de le comprendre. Et dans Yardam, on a vraiment ça, parce que le personnage fait des choses très, a des actes répréhensibles. Et du coup, mon objectif, c'est pas que vous disiez bah oui, je m'identifie à ce mec-là. C'est plus de dire ok, je peux comprendre ce que tu fais parce que t'as vécu ceci, ceci, cela. Donc c'est plus ça en fait.
Ta réponse, elle est parfaite, ça me permet d'enchaîner. Mais on va parler de la responsabilité des auteurs. Alors, c'est facile de parler de la responsabilité des auteurs sur des thèmes qui sont l'écologie, l'antispécisme, la souffrance animale, parce que ce sont des choses qui nous touchent et qui sont compréhensibles. On repart sur le dieu oiseau, ou on part sur Yardam, où ce sont des personnages qui, pour survivre, font des choses qui sont au minimum illégales, parfois même amorales. Est-ce que écrire ce genre de choses, est-ce que donner de l'imagination à d'autres personnes, est-ce que c'est pas de la responsabilité de l'auteur, est-ce que ce n'est pas répréhensible?
Ouais, ça c'est aussi une question que je me pose beaucoup, et je pense nous tous, hein, aussi avec les crises qu'on a traversées. C'est quand vous écrivez de la dark fantasy, quelle ambiance, quel climat vous mettez dans la tête des lecteurs? Est-ce que vous n'êtes pas en train de participer à une sorte de dépression générale? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt mettre en scène des personnages bienveillants? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt montrer des personnages qui s'entraident plutôt que des personnages qui s'enfoncent? Et ça, je me pose vraiment la question. Alors du coup, le désert des couleurs est très différent, parce que dans le désert des couleurs, le personnage principal est extrêmement bienveillant. Et comme je ne savais pas faire écrire des personnages bienveillants, je me suis dit, comment tu vas écrire un personnage bienveillant? Je me suis dit, pense à ce que ferait un chien. Parce que le chien fait passer, est très altruiste, et fait passer autrui avant sa propre vie. Donc mon personnage est extrêmement canin. Extrêmement canin, mais il est très altruiste, il est très bienveillant, il est plein d'amour, et il veut aider son prochain. Et je me dis que c'est pas mal aussi de temps en temps d'avoir des personnages comme ça. Je pense qu'on en a besoin aussi d'avoir des personnages qui sont plus solaires plutôt que des personnages qui sont très nocturnes comme Kazan dans Yardam. Moi je les appelle le jour et la nuit, hein, tous les deux. Yardam c'est la nuit, le désert des couleurs c'est le jour. Et oui, alors après est-ce qu'on a une responsabilité? Je pense qu'il faut pas non plus...
Je pose juste la question.
Se mettre trop de... Enfin voilà, on n'a pas une grosse responsabilité en fait. On est plutôt dans l'industrie du divertissement. Mais malgré tout, voilà, je pense qu'on est en droit de se poser la question. Alors je me suis dit, oui, je vais plus faire que ça maintenant. Je vais faire des communautés de personnes qui s'entraident et qui sont bienveillantes. Et en même temps... J'ai envie de revenir à des trucs dark, hyper cathartiques, puisque je me dis on a aussi besoin de la catharsis.
Pour revenir sur le désert des couleurs qui est ton jour, a priori c'est un jour avec des nuages, puisque le personnage principal, Canin, accompagne quelqu'un qui est pas une bonne personne.
Mal, elle va très mal. Elle va très mal. Mais il y a une raison pour ça, qu'on va découvrir.
Oui, oui.
Et alors moi ce que j'appelle ça éclairer les ombres en fait. C'est vraiment, on arrive dans quelque chose qui est très sombre avec sa lanterne. On éclaire. Éclairer les yeux.
Est-ce que vous avez d'autres questions posées à Aurélie Wendelschen?
Est-ce que tu as des personnages animaux?
En fait, moi, ce que j'aime bien mettre en scène, c'est l'animal. L'animal brut, tu vois. Il n'y a pas tant d'animaux que ça dans la littérature. On leur laisse pas tant de place que ça. Il y a de plus en plus de romans sur l'écologie, mais finalement, il y a assez peu de romans qui mettent l'animal au premier plan. Et moi, ça m'énerve parce que c'est encore une fois une vision anthropocentrée. On ne s'intéresse qu'à nous. Tu vois, quand tu parles d'écologie, et encore une fois avec la mer et les océans, on a toujours ce discours-là. On est en train de dire, ah, on est en train de vider les océans, ah, bah, l'humanité, elle va crever. Non, mais attends, ok, mais les poissons, qui pensent aux poissons aussi? Enfin, c'est toujours, on a toujours cette vision, nous, d'humains, et on se préoccupe que des humains. Donc, d'essayer de mettre dans la littérature aussi des animaux au premier plan, Dans Mère Morte, c'est ce que j'essaie de faire. Dans un peu tous, tu vois. Mais surtout dans Mère Morte, malgré tout. Et là, dans celui que je suis en train d'écrire aussi. Et le côté anthropomorphisme, c'est aussi hyper intéressant, mais plus pour les enfants, je trouve. Tu vois, de leur apprendre à aimer les animaux, de dire « Ah, les animaux sont comme moi mmh. ». Et ça marche aussi sur le côté antispéciste, mais un peu autrement. Enfin, c'est deux angles d'attaque qui marchent en parallèle, qui sont intéressants. Mais je trouve pour les adultes, moi j'aime bien mettre l'animal, tu vois. Pas l'animal humain, l'animal.
Et du coup, tu te documentes beaucoup par rapport à ça ou...
Bah, Mère Morte, c'était atroce. Hein. C'était atroce. J'ai écrit toutes les scènes, vraiment, elles sont très courtes. Hein. Très, très courtes. Et ouais, enfin, c'est insoutenable, en fait. C'est insoutenable. Je les ai écrites très vite, c'est ça que je veux dire. C'est que j'ai fait toutes les scènes, les pires, en une après-midi. Mais en fait, là, j'ai aussi écrit Mère Morte parce que j'avais vu une vidéo. J'avais vu, c'est les ailerons de requin. Que j'ai découvert comme ça. J'ai cru que c'était faux en fait. J'ai cru que c'était une fausse vidéo. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. Tu coupes l'aileron, tu coupes les nageoires et tu relances l'animal à la mer. Et l'animal est cool comme une pierre. Jusqu'au fond. Donc si tu veux, je l'ai regardé, mais je l'ai pas non plus trop revu. En fait, moi je suis membre de plusieurs assos de protection. Et toutes les vidéos d'L214, c'est super bien. Et moi, je pense que c'est aussi ça qui a fait un choc. Hein. Le choc des images, qui est plus fort hein, que le choc, choc de l'image. Mais là, maintenant, je t'avoue, j'ai du mal. Quoi. Quand il y a les nouvelles vidéos qui sortent, je me dis, est-ce que je la regarde quoi. Après, ce qu'on fait en fantasy, c'est que tu mets un filtre. Et c'est ça qui est bien aussi dans l'imaginaire, c'est de pouvoir mettre ce filtre-là. C'est ah oui, ok, on parle de ça, mais on va en parler avec un écran de fantasy. Hop, tu mets un peu à distance. Et ça te permet d'en parler, de parler des choses d'aujourd'hui, mais en disant ah, bah, c'est un futur post-apo, oh, les humains ils ont trop fait les cons. Voilà. Mais tu penses à aujourd'hui et en même temps t'es ailleurs.
Mère Morte est sortie en BD. Est-ce que ça n'a pas rendu le roman plus jeune, la BD ?
Je pense pas, parce que, mais c'est dur à dire parce que j'ai pas trop rencontré le public de BD. J'ai surtout rencontré des lecteurs du roman qui m'ont dit ah j'ai lu la BD et tout. Donc c'est des gens que je connais par le roman. Mais des lecteurs de BD, non, j'en ai encore pas trop parlé. Je pense que c'est l'illustrateur qui les voit. Mmh. Et moi, je vois plus mes lecteurs à moi, entre guillemets. C'est hyper marrant parce que c'est une manière de penser le texte qui est super différente. C'est très énergivore. Parce que en fait, donc tu fais rien, tu touches pas à ton clavier tout ça. T'es devant ta feuille et tu imagines toute la page. C'est dans ta tête. Tu la passes comme dans un film et tu fais pause. Tu dis pause 7 ou 8 fois pour faire tes 7 cases là, 7 ou 8 cases. Tu t'arrêtes et tu tapes tout à toute vitesse pour pas oublier. Tu vois ? Tu dis tac 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 là dans cette case il y avait ça, dans cette case il y avait ça, dans cette case il y avait ça. Donc c'est assez drôle en fait comme truc. C'est vraiment comme te projeter un film mental et t'es avec ta télécommande, tu fais stop. Mais par contre, ouais, ça, c'est une décharge d'énergie qui est hyper brute par rapport au roman où t'es plus fluide. Donc c'est un peu autrement. Et surtout, c'est quasiment de la nouvelle. Parce que t'es sur du 46 pages. Et ça va tellement vite.
Et donc pour Mère Morte, est-ce que c'est l'adaptation du roman ou c'est une histoire parallèle ?
C'est une histoire parallèle.
Je pense que licencier, créer, transformer des œuvres en licence, ça peut être une direction pour... permettre à l'imaginaire d'être plus populaire.
Ouais, moi je crois que c'est... J'y crois vachement. Après, il faut l'univers qui s'y prête. Il faut que t'aies pensé à un univers qui s'y prête. C'est pas du tout le cas de tous, quoi. Mais Mère Morte, il est tellement... L'univers est tellement énorme, tu peux tout faire dedans. Là, celui que j'écris pour les tout-petits, j'aimerais bien aussi qu'il soit diversifié, qu'il y ait plusieurs médias.
Personne t'a approché pour des adaptations ciné ou télé?
Ben, en fait, tu sais, Estelle Faye, qui est vachement là-dedans, elle m'avait branché sur une résidence de scénariste qu'on a fait pour le ciné. Et c'était super. Mais c'est pas allé au-delà de, tu sais, le traitement. Ce qu'on appelle le traitement, c'est un sino en 20 pages. Et moi, je suis pas allé au-delà parce qu'en fait, les producteurs, ils m'ont dit « Ah ouais, mais là, ça se passe de nuit avec des enfants dans la neige. Trop cher. » Pareil, tu sais, j'avais coché toutes les mauvaises cases, quoi.
Cette rencontre va toucher à sa fin. Merci beaucoup, Aurélie.
Merci à vous. Merci.
Et puis, merci à la médiathèque.
Et voilà, c'était Florence and the Machine, le deuxième choix d'Aurélie Wallenstein, deuxième choix musical. Quelques trucs, on a une minute pour parler de l'agenda. Je voulais mentionner que le vendredi 30 septembre, c'est la nuit des chercheurs qui se déroulera au centre de formation Cointreau à Angers. Et dans ce cadre, il y a un genre d'escape, mener l'enquête, qui est mené par le... Enfin, ce sera par le public, mais organisé par le laboratoire CIRPAL de l'université. Utilisez votre imagination à travers différentes activités d'écriture improvisée, devinez la fin de textes sélectionnés, recherchez l'étonnant en n'ayant que le titre, frissonnez en jouant au Cluedo autour de plusieurs nouvelles telles que Double assassinat dans la rue Morgue de Garpo, L'apprenti psychiatre de Julien Green ou encore Dr Jekyll et Mr Hyde de Stevenson. Ça a l'air intéressant. Tout et bien. Le lendemain, n'oubliez pas qu'Imaginaire organise une initiation au jeu de rôle à la bibliothèque Hervé Bazin à Trélazé. Donc vous pouvez vous inscrire sur leur site, ce sera de 14h30 à 16h30. Voilà, voilà. Ciao.
Bonne soirée, à la prochaine.
Et à bientôt.
La matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons ces parcours ensemble. Les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez